Elle est belle, hein. Elle est réconfortante. Elle est libératrice, la parole de Dieu. J'aime spécialement la première lecture du dimanche d'aujourd'hui par le livre de la sagesse. C'est vraiment le premier chapitre du livre de la sagesse. Mais Dieu n'a pas fait la mort. Et si les êtres de vie meurent, ils ne s'en réjouissent pas. C'est lui, tous, qui les a créés. Il les a créés pour qu'ils subsistent. Subsistance. Dans le verbe de Dieu. Il nous a créés pour que nous ayons la grâce. Et la grâce est notre subsistance dans le verbe de Dieu. La subsistance, c'est une propriété de la substance. Transsubstantiation, subsistance. Ça va ensemble. Il les a tous créés pour qu'ils soient subsistance. Ce qui naît et dans le monde, porte la vie. Vous n'y trouverez aucun poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre. La tzedaka, la justice, est immortelle. Et Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de l'homme une image de sa propre identité. C'est magnifique. Et alors, la mort, hein? Eh bien, c'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Dieu n'y est pour rien dans la mort. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre. On pourrait rajouter aussi la maladie, la tristesse, l'angoisse, la souffrance, la corruption. Tout ça, ça ne vient pas de Dieu. À combien de fois on entend les gens dire: oui, pourquoi est-ce que Dieu nous fait souffrir? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de mal dans le monde? Pourquoi? C'est Dieu qui fait ça. Cette espèce de remarque qu'on trouve dans la bouche de l'immense majorité des gens montre que ils confondent Dieu et le diable. Pour eux, Dieu, c'est le diable. Alors, par politesse, ils disent, oui, Dieu permet la mort, permet rien du tout. C'est quand même extraordinaire. Et aussitôt que dans le principe de la création, dans le principe de l'illumination, dans le principe de la liberté de la vie, au moment où nous nous donnons dans la louange universelle, engloutie dans toutes les gloires qui peuvent rendre honneur, louange et bénédiction à Dieu, lorsque nous disons oui, dans une intériorité spirituellement épanoui à l'intérieur de la lumière. Nous le voyons bien, ça, que nous l'avons vu, et ça reste en nous, ça, que Dieu ne crée pas la mort. Ça fait partie du capital de sagesse dans laquelle nous commençons simplement à ouvrir les yeux intérieurs, parce que les jeux intérieurs, c'est vrai, dans la liberté du don, dans l'innocence divine originelle, nous avançons dans l'allégresse, hein. Une confiance, une joie parfaite. Pourquoi ? Parce que on voit qu'on est dans la main de Dieu, et que Dieu est à l'intérieur de notre âme, et qu'elle voit ce qu'est la vie, et elle aspire immédiatement à la grâce. Elle aspire dans son oui immédiatement son inscription dans le livre de la vie, qu'elle touche, qu'elle voit, qu'elle contemple, qu'elle assimile en elle, pour dire oui une deuxième, puis évidemment une troisième fois, au rythme de sa liberté dans le don, parce que elle se trouve dans la lumière d'un élan de vie qui est sponsor. C'est pour ça qu'il y a un triple oui dans la Memoria Dei, dans notre origine quand Dieu nous crée. Une confiance, une allégresse, une liberté. Et notre vie intérieure est immédiatement aux dimensions de la vastitude de ce oui, qui est le oui de la créateur de Dieu et qui fait entendre son écho en nous de toute la création de Dieu. Donc nous sommes devenus responsables, nous sommes devenus la subsistance dans le Verbe de Dieu qui illumine tout ce qui est à l'intérieur de Dieu et tout ce qui est à l'intérieur de ce qui vit. Mais bien sûr que Dieu n'a pas créé la mort. Pour Dieu, la mort est une chose impensable. Et la mort, avec tous ses attributs, hein, et notamment la corruption. Et bien sûr, Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Et Dieu a créé l'homme parce que pour l'incorruptibilité, parce que la puissance de la mort ne règne pas sur le corps de l'homme. La puissance de la mort n'a aucune prise sur le corps vivant de l'homme. Moi, j'aime bien ça. La puissance de la mort n'a aucune prise sur un corps humain. Aucune. Si on est créé par Dieu depuis la conception, dans l'animation immédiate, l'innocence divine originelle fait de nous une vastitude intérieure qui a les dimensions de l'acte créateur de Dieu pour la subsistance de la grâce. Et ce que dit le catéchisme à propos de la grâce sanctifiante, est un habitus antitatif qui nous fait subsister dans la vie éternelle du Verbe de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit que dans le prologue, que le Verbe de Dieu est la lumière qui illumine tout homme à l'instant où il le crée dans le monde où nous sommes. Nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres de vie. Et regardez l'horizon d'aujourd'hui, c'est trop belle. Ah, tu as voulu que, en recevant la grâce sanctifiante, la grâce de la sainteté, nous devenions des engendrés de la lumière. Nous devenons, dans la subsistance de la grâce, des engendrés, des fils de la lumière, de sorte que la lumière déborde, que nous soyons toujours surabondants, débordants, rayonnants de la lumière, consacrés à la vérité en Jésus-Christ. Nous sommes des engendrés de lumière, nous sommes des êtres de la lumière, nés de la lumière, nous sommes des engendrés de la deuxième personne de la très sainte Trinité, hein, c'est ça, hein. On subsiste dans le Verbe, pas seulement la subsistance, mais aussi le mouvement, la croissance, l'engendrement. Nous sommes des engendrés de la lumière, nous sommes des fils de du Fils, du Verbe, de l'épouser, de la seconde personne de la très sainte Trinité, de la sagesse. C'est la sagesse sur la croix qui est voyant donc la mort partout, engendrée par le diable et par ceux qui prennent son parti et s'engloutit à l'intérieur de l'engendrement vivant incarné de la justice parfaite. Il fait ça pourquoi ? Il fait ça pour s'emparer, aller à la rencontre de toutes les morts, de toutes les souffrances, de toutes les douleurs, de toutes ces formes, toutes et partout. Et dans sa mort, le faire mourir, parce que Dieu ne supporte pas la mort. Et la puissance de la mort ne règne pas sur le corps vivant de l'homme, parce que la justice est immortelle. Alors, le Verbe est venu, il a cherché partout, dans tous les temps, dans tous les êtres de vie, dans tous les lieux. Il a cherché, jusqu'à ce qu'il trouve la justice. Je suis de plus en plus frappé, moi, du rôle de Saint-Joseph. Tot kaios on, 19e verset de la Bonne Nouvelle de l'Évangile et du Nouveau Testament. La justice par excellence, la justice elle-même, la justice manifestée, existante, incarnée, subsistante. Il a cherché partout l'univers, il a cherché dans son principe créateur, il a cherché dans tous les lieux, dans tous les temps, il a cherché dans toute l'humanité, il a cherché dans partout, dans les êtres de vie, les êtres angéliques, tout ça. Dieu a cherché partout et il a vu la justice. Alors, il s'y engloutit. Et il a fait la vie avec lui de tout ce qui est vivant. L'innocence divine originelle du principe de l'Immaculée Conception dans une terre incorruptible. Dieu a vu, il l'a vu, s'est réjoui. Et psaume 117, ce matin dans l'office de l'aune, ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai. Et la lumière d'amour éternel et agréé de Dieu s'est retournée sur elle-même et s'est précipitée. Il a ouvert les portes de la justice. Il a créé le premier avènement, le premier surgissement, la première surabondance, la première manifestation de la grâce chrétienne. Cet acquiescement, cette, voyez, je ne sais pas comment dire, dans Saint-Joseph, cette année, on navigue, on s'engloutit, on fait comme le bon Dieu, on se précipite, on ouvre les portes de la justice, on ouvre toutes les portes pour entrer. Si Abraham, avec dans son chair, sa vie intérieure, avait été ouvert de tous les côtés, il avait une tentaine de portes. Saint-Joseph, c'est pareil. Voilà. Alors, ouvrez-moi toutes les portes de Saint-Joseph, cette tentaine de portes, le corps spirituel de Saint-Joseph, le principe de l'Immaculée Conception, l'entrée de Dieu dans la mort, qui lui est insupportable, dans la corruptibilité, qui transforme immédiatement en incorruptibilité, dans la liberté, dans la liberté et la vastitude de cette liberté lumineuse. C'est extraordinaire, quoi. Et il lui donne immédiatement, dans le premier instant qui suit son accessement, dans la vastitude de son don, dans la lucidité d'un amour victorieux de tout, puisqu'il va jusqu'à la substance de la paternité créée de Dieu, qu'il spire à l'intérieur de lui-même pour dire le oui une quatrième et une cinquième fois. De sorte que, il est devenu son père, lui qui est le fils de la lumière, le premier engendré de la lumière. Le père. père devient le fils. Le fils devient le père dans la lumière d'amour, de cette sainteté, dans la subsistance de la nature divine du fils, de celui qui du coup spire à l'intérieur de la paternité de la peau, une spensalité qui permet à la mort de disparaître partout. Et j'allais dire, Saint Joseph, c'est la justice substantielle incarnée. Saint Joseph, dans son origine, dans son oui originel, dans sa mémoire de Dieu, dans sa liberté du don, dans sa conscience d'amour, dans son élan intrépide, universel, incorruptible, est objet de contemplation. Ça veut dire, on fait tout ce que Dieu fait, nous faisons comme lui, nous faisons comme Dieu fait. Et Dieu voit ça, voit la justice. Il s'y engloutit, il rentre. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, m'engloutirai pour aller jusqu'au déploiement de son fruit. La dernière messe, la dernière Eucharistie, le dernier déploiement, la dernière Eucharistie du oui. C'est vertigineux, Joseph. Saint Joseph, mon père, mon papa, est objet de contemplation pour Dieu. Alors, dans l'Apocalypse, il est écrit que nous sommes sortis de Dieu et nous, ex tuteo était, vous êtes sortis de Dieu. Peritu trono était, vous êtes l'enveloppant du trône, c'est-à-dire la présence de la justice incarnée, glorifiée. Il y a une affinité avec la spensalité de la substance même subsistante dans l'hypostase de la première personne de la Sainte Trinité pour engendrer l'épousée, pour être le principe de l'épousée. C'est parfaitement exact, ça. C'est vertical, ça. Pour ça, à un moment donné, cette unité entre le Père et le Fils et le Père dans l'engendrement de la lumière et dans l'acquiescement, dans la réalisation de l'échange d'accueil et du don jusqu'à sa sublime opération internelle, se conjoignant à son opération causée à créer dans l'indivisibilité des deux, qui fait la dernière messe de l'Église, la Jérusalem nouvelle, qui est devant nous, hein. Nous sommes quand même le temple de la corruptibilité de Dieu et de la Jérusalem dernière qui va se muer en Jérusalem glorieuse, éternelle et vivante. Ça, c'est la dernière messe qui fera ça. C'est le fruit de cette entrée triomphale, exaltée, admirable de Dieu, lorsque il ouvre les portes de la justice à cause du oui, du principe dans la chair et dans la terre de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire de l'union hypostatique des cirés de Jésus dans sa subsistance, dans sa substance, dans son extension et dans sa compréhension, dans sa signification, dans son expression enveloppante et totale, surabondante, jamais. Et quand il y aura le cinquième ciel, et Saint Paul par exemple, il dit, moi j'ai été emporté, est-ce que c'était avec mon corps, avec ma terre incorruptible, ou est-ce que c'était sans mon corps, j'étais emporté au cinquième ciel. Et là, j'ai reçu toutes les révélations dont on ne peut pas même imaginer qu'il puisse en exister le plus extraordinaire. Hein? Ce cinquième ciel, nous aspirons à l'ouverture des portes de la justice, le cinquième ciel. pour avoir toute la révélation dans sa, dans son extension, dans toute son extension, pour retrouver, nous plonger nous-mêmes à Saint-Joseph et dans l'Immaculée Conception et dans la conception de la Jérusalem dernière dans, son, dans sa dernière messe. Voilà, les trois conceptions en une seule, indivisiblement, données en nourriture. Et à l'intérieur desquelles se conçoit le corps spirituel du cinquième ciel dans lequel nous sommes introduits parce que nous sommes les fils, les engendrés de la lumière, nés de la lumière, sans être vus. Hein. De l'entendre, cela, c'est une chose, de le toucher, c'est merveilleux. D'y subsister, c'est extraordinaire. D'y surabonder, c'est ce qui est normal. De s'en nourrir, mais c'est ça, notre seule richesse, notre seule propriété. Quand le pape il dit, voilà, hein, nous sommes tous frères parce que nous avons un papa, nous avons, en raison de la paternité féconde, de la fécondité paternelle de Dieu, nous sommes tous frères. Immédiatement, nous sommes tous frères. Il n'y a pas un petit voile, comme ça, mitotique entre nous et puis Saint-Joseph. Non, non. Il n'y a pas de voile. Animation immédiate. On s'est englouti. Hein. Il n'y a pas de voile. C'est animation immédiate. Formidable, ça. Le roi d'Israël. Nous sommes les rois fraternels de l'univers. La grâce de l'engendrement divin du ciel dans la terre pour donner à Dieu l'incorruptibilité qu'il a lui-même créée dès le départ dans sa réalisation de la fin, dans l'inscription de, et l'éclatement de toute chose à l'intérieur de la gloire, de la mutation, de la conversion de la Jérusalem dernière et nouvelle de l'Église Immaculée, accomplie en plénitude aux cieux, qui se convertit, qui passe hein, d'un seul coup comme ça, un seul instant, dans le flux et le reflux, à la création de la posée, à créer dans tout ce qui subsiste en elle, la justice substantielle, la justice incarnée. Faites serre dans l'incorruptibilité du corps. Fait la paternité dont parle le Saint-Père. Hein. Il est le principe de l'Immaculée Conception, ça c'est sûr, puisque c'est son épouse. Dans la sainteté de son oraison, de ce déploiement vivant en lui, de sa vastitude. Ah, continuellement. Continuellement, jusqu'à engloutir, assimiler, et dans l'indivisibilité totale avec la tantema, le sommeil mystérieux du Verbe de Dieu, dans l'Immaculée Conception, celle par laquelle il s'engloutit à l'intérieur d'elle et de lui, dans l'au-delà de l'unité des deux, pour anéantir, assumer, c'est-à-dire prendre. Toutes les incorruptions dans l'incorruptibilité, dans toutes les morts, toutes nos morts, notre mort, la mort de tous, la mort de chacun, toutes les formes de mort, il les prend et il s'en nourrit. Et en les nourrissant, il les assimile et il fait disparaître la mort. Dieu ne veut pas la mort. Quand est-ce que tu vas comprendre ça? Il a engendré l'Immaculée Conception parce que c'est son épousée. Il en est le principe dans la terre incorruptible de son, de son engendrement hein, et dans l'aspiration intérieure qui est la sienne, qui fait sa vie spirituelle de la nature subsistance hypostatique de l'époux. Hein, on a, il n'y a pas si longtemps que ça, on a en fait Jean-Baptiste. Lui dans le cinquième ciel. Là. C'est quand même, faut pas l'oublier que Jean-Baptiste est le premier engendré de Saint-Joseph et de Marie dans sa dessein de la créateur de Dieu. Faut jamais oublier ça. Et c'est pour ça que Jean le Baptiseur, c'est un copain. Moi, c'est mon copain, c'est il baptise. Il plonge tout le monde là-dedans, quoi. Et il arrête pas, quoi, de baptiser. Intérieurement, puis un jour extérieurement, puis il baptise, ça continue. Et puis quand il va ressusciter d'entre les morts, dans le cinquième ciel qui va apparaître, c'est parce que ce sera notre génération, ça, le cinquième ciel qui apparaît. Il baptise, et nous on baptise, on plonge. Dans la vastitude de quoi hein, de la grâce terminale, de la grâce finale, de la grâce accomplie, en plénitude reçue, de l'hostie vivante descendante, et se communiquant pour la disparition, sans être vue, hein, faisant disparaître derrière nous tous les princes de la mort. Ouais, c'est génial, la relation entre Jean-Baptiste et Saint-Joseph. Oh. Attendez. Là, il y aurait de quoi dire avec une immense précision ce qui se passe à l'intérieur de l'unité de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce qui va se passer dans notre vie intérieure incorruptible? Nous qui sommes les engendrés de la lumière d'amour, de l'amour accompli, terminal, en plénitude reçue de la fin, de la dernière messe, qui fait l'intériorité, la vastitude intérieure de la créateur de Dieu, dans sa grâce de subsistance dans l'Esprit Saint. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait, lui il vous baptisera dans le feu. L'Esprit Saint. Où est-ce qu'elle est la mort? Où est-ce qu'elle est? Il n'y en a plus. C'est génial l'Apocalypse. Mais où est-ce qu'elle est la mort? Où est-ce qu'elle est? Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, s'arrête, il regarde partout, tout autour de lui, là. Partout. Où est-ce qu'elle est? Cette Jérusalem, là, qui lui a pris toutes ses forces. Parce qu'elle est la mort, il n'y en a plus. Oh, ça y est, il n'y en a plus. Mais effectivement, il n'y en a plus. Il y a une espèce de loi de sagesse de la croix qui fait que, et dans la créature de Dieu, et dans la disparition de la mort, transformation de la mort en. La transformation de la mort, ben, elle disparaît, oui, mais pour être transformée. Pour être transformée en quoi? Mais pour être transformée. Ça a été agréé, c'est-à-dire en principe de toute vie divine, à la fois agréée, à la fois créée, dans l'indivisibilité de Dieu. Vous voyez, à chaque fois qu'on dit la messe, on prend ce que nous avons reçu, le Dieu Tout-Puissant et tout ce qu'il a fait, et puis on le met entre les bras dans le cœur, dans cette source. De Marie, quoi, enfin, d'Immaculée Conception, enfin des trois conceptions dont nous avons parlé, dans leur indivisibilité. Et donc, le sacrifice de la messe, la communion que nous recevons, qui est infiniment petite parce que notre foi est minuscule, mais eh ben, on la place comme ça, on la plonge, on l'encloutit dans la justice. On ouvre les portes de la justice qui a cette dimension trinitaire. Et eux, Marie, Joseph, dès l'instant de sa conception, Marie, dès l'instant de son immaculée conception, ils le respectent tous, éternel et incré du Verbe, enthousiasmé, dès l'instant de sa conception, dans le cœur, corps rédempteur de Marie au pied de la croix. Ces trois instants, en un seul instant, Marie, Joseph, les font passer, si on le leur donne, dans l'indivisibilité. auprès de Dieu. Et du coup, notre communion, notre messe, notre mission, la mission invisible des personnes divines dans notre âme, notre corps, la terre, apporte et donne son fruit. Et du coup, la communion et le sacrifice éternel d'amour, dans cette indivisibilité, font que notre communion, notre messe, notre oui, deviennent infiniment grand, de l'infiniment petit de notre foi qui reçoit, qui célèbre la messe, si nous passons en ouvrant les portes de la justice. Et Marie, ce qu'elle fait, c'est quoi? Ben, avec Joseph et Jésus, et avec, il faut bien le dire aussi, la macharisation de la grâce agréée à l'intérieur de nous, dans cet acte sacerdotal royal terminal de l'Église. Elle introduit ça, elle introduit notre messe, notre communion, l'infiniment petit, notre communion, dans l'infiniment grand, de l'indivisibilité de Dieu. Et dans l'indivisibilité de Dieu, ça devient une communion infiniment grande, où le Père, l'époux, se donne sans compter, partout, toujours, à chaque instant, à chaque moment, dans le temps éternel, dans la fin éternellement. Dieu n'a pas voulu la mort. C'est simple. Dieu ne veut pas la mort. Il veut que notre corps soit un corps spirituel, temple du feu du Saint-Esprit, où le Père et le Fils, l'époux et l'épouse se plongent. Et c'est ça le baptême. Mais je m'excuse, mais vous enlevez l'animation immédiate en Saint-Joseph et tout ça disparaît, n'existe plus. Et c'est la primauté de l'oraison, priorité absolue à l'union transformante pour nous engloutir dans le cinquième ciel. Priorité absolue